fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire.
Tout le monde qui a souffert, les parents qui ont kidnappé, tout le monde qui a mal, on n'a qu'à faire les autos, c'est pas ce cas. Et dans d'autres endroits, côté de l'Antibonite également. Cher Joël Lorquet, journaliste, alors faut que moi dis non que c'est un ami de longue date, médecin, ingénieur, et faut que moi dis non, il y a un monde qui fait en pile travail. Alors et nous là, comme à l'accoutumée, jusqu'à 2 heures, et n'a pas remercié encore une fois. Et tout un ami qui a coûté nous un peu partout. Alors nous connaît que nous gagnons Roxane Ledan et que nous allons faire nous tendre et dans petit causé et citoyen, ça c'est travail pâle. Et puis après n'a gagné Leslie Condé et également n'a voulu un petit coup de chapeau tout et pour nos amis en fait et... Alors, mais oui, c'est pour toi, ma chère. N'a voulu un petit coup de chapeau également et pour Serge Moïse. En attendant, on écoute Roxane Ledan à l'occasion du mercredi 18, qui c'est une date historique. Hein? Alors, c'est mon qui connaît et qui ça et groupe autorique garçon ça lié. On écoute ça.
Nous dit tout le monde l'honne. Nous retournons jeudi à Acticos et citoyens que Roxane Le Dantay Noël pote pour nous. Jeudi à Acticos et citoyens pour parler de bataille de Vertière qui était faite jour qui était 18 novembre 1803. La bataille de Vertière de 18 novembre 1803 est la plus grande et la dernière des trois grandes batailles de la guerre de l'indépendance. Les deux autres grandes batailles étaient celles de la Ravine à Couleuvre du 23 février 1802 et de la Crête à Pierrot du 4 au 24 mars 1802. Pour rappel, la Ravine à Couleuvre se situe dans la localité de Croix-Péris, première section communale de l'Estère, et la Crête à Pierrot à la petite rivière de l'Artibonite. Au cours de ces deux grandes batailles de 1802 dans l'Artibonite, ce sont les troupes indigènes qui étaient assiégées par les troupes françaises de Leclerc. Mais dans le cas de la bataille de Vertière, ce fut le contraire. Les troupes françaises étaient cette fois assiégées par les troupes indigènes. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines ordonna à ses troupes de prendre le fort de Vertière, situé sur la butte Charrier, à côté de la ville de Cap-Haïtien, appelée à l'époque Cap-Français. François Capois était à la tête d'une demi-brigade qui s'élança avec fougue vers l'ennemi, mais qui fut en partie décimée.
Alors, n'a pas demandé Zamio parler les noms pendant que nous en ondes, s'il vous plaît. Parler les noms.
Par le tir des canons en provenance du fort. Battre en retrait n'était pas dans les habitudes du général Capois, qui relança un nouvel assaut. Mais ces hommes furent encore fauchés au pied de la colline par l'artillerie française. Véritables guerriers dont la détermination n'avait d'égal que la bravoure. Capois courut chercher des renforts. Puis pour la troisième fois, il lança ses forces à l'assaut de ce fort. Une fois de plus en vain et laissant de nombreux morts. Personnification du courage sur le champ de bataille, le général Capois, malgré ses trois tentatives infructueuses, se rouilla une quatrième fois encore sur l'ennemi en criant « Grenadier à l'assaut, nan point maman, nan point papa, ça qui mourit a fait à yo. » Au cours de ce nouvel assaut, un boulet de canon faucha son cheval. Capois se retrouve à terre. Il se relève, brandit son épée et continue d'avancer vers le fort en criant plus fort à ses soldats « En avant, en avant !» Cet acte de bravo et hors du commun lui vaudra dès lors le surnom de Capois la mort, celui qui continue d'avancer malgré l'adversité. Admiratif de l'héroïsme dont avait fait preuve le général Capois, Rochambeau, qui observait la scène, s'écriait « Bravo, bravo, bravo !» Soudainement, un silence s'établit sur le champ de bataille. Un messager personnel de Rochambeau monta sur son cheval et partit vers Capois la mort. Avec une voix forte, il cria. Le général Rochambeau envoie ses compliments à ce général qui vient de se couvrir de gloire. Le messager retourne dans le camp français, la bataille recommence. Pour renforcer les bataillons épuisés de Capois la mort, Dessalines envoie des renforts et les combats redoublent d'intensité. François Capois et d'autres généraux repoussèrent la contre-attaque désespérée des Français. Le soir venu, les deux tiers des défenseurs français étaient morts ou blessés. Rochambeau capitule. La France vient de perdre Saint-Domingue. Et Napoléon essuie sa première défaite. C'était yon ti koze citoyen ke Roxane Ledan, Tay Noël, te pote pou nou yon lot fwa jodi a.
Merci Roxane, merci Roxane. Nou konnen ke set un jour kan menm ase spesyal. Nou pral fè nou tande set fwa Leslie Kondé nan yon ti koze sou 18 novembre. On l'écoute ça.
Mon message s'adresse à tous les auditrices et auditeurs de Samedi Midi Inter à l'occasion du 219e anniversaire de la bataille de Vertières. Je vous invite cette année encore à m'accorder l'ainsi privilège de vous accompagner où que vous soyez dans la commémoration d'une des dates les plus fières de l'histoire de notre cher pays. Cette date est aussi importante dans l'histoire du monde entier, puisque, d'une part, ce qui se passa sur l'île caraïbéenne de Saint-Domingue, en ce 18e jour du mois de novembre de l'année 1803, eut de nombreuses répercussions irréversibles partout sur la planète. Et d'une autre part, nous vivons dans un monde qui se dit amoureux et haut de justice et de liberté. Je suis immensément fier de commémorer le 219e anniversaire de la glorieuse bataille de Vertières en votre compagnie. La commémoration de la bataille de Vertières est une célébration de l'invincibilité de tout peuple qui s'attache à ses traditions ancestrales et à son humanité. Je vous dis que même si l'esclavage continua d'exister après la défaite des forces coloniales françaises à Vertières, ce fut en réalité la victoire de nos ancêtres qui sonna le glas de cette odieuse mais lucrative exploitation de l'homme par l'homme. Toutefois, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître que le 18 novembre n'est pas une date commémorée ou même mentionnée en dehors des frontières d'Haïti ou des communautés haïtiennes dans la diaspora. C'est que ce monde, si épris de liberté, de justice et de démocratie, n'a jamais, je dis bien, n'a jamais jugé bon d'acclamer la victoire qui marqua le début de la fin de l'ordre mondial esclavagiste et la naissance du premier État noir souverain du Nouveau Monde. En effet, le 18 novembre de chaque année devrait être commémoré par toutes les nations comme étant le jour où, en l'an 1803 à Vertières, Jean-Jacques Dessalines, à la tête d'une armée d'esclaves révoltés, infligea une claire et humiliante défaite aux troupes esclavagistes de la France, commandées par le général Rochambeau. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, ont du mal à digérer cette éloquente leçon d'humilité et ce remarquable triomphe de la dignité humaine. Mais Vertières appartient d'abord, je dis bien, Vertières appartient d'abord et avant tout aux Haïtiens. C'est notre histoire. C'est notre identité. Nous avons de véritables héros que nous devons honorer fièrement. C'est à Vertières que la porte de la liberté s'ouvrit pour le monde entier. C'est à nous d'être fiers de notre précieuse identité et de rappeler au monde que la liberté naquit à Vertières le 18 novembre 1803. La bataille de Vertières est un événement historique de très grande importance qui appartient d'abord et en tout premier lieu à la nation haïtienne. Mais elle appartient aussi d'une manière assez significative à l'espèce humaine dans son ensemble, car elle signala le début de la fin d'une ère. Avec la défaite irréversible de l'armée esclavagiste de la France, l'ordre mondial esclavagiste se trouva gravement atteint et ne tarda pas à succomber. Quant à notre Haïti, ce fut le mauvais exemple. Et nous voici aujourd'hui. Notre cher Haïti est réduite aujourd'hui à sa plus simple expression sous les regards indifférents du monde. À présent, je dis bien à présent, toutes les humiliations ressemblent au pays qui, le 1er janvier 1804, porta si fièrement l'étendard de la liberté. Pourtant, la bataille de Vertières, qui représente le triomphe de la bravoure contre la tyrannie, peut encore nous inspirer. Cette bataille de Vertières, qui représente le triomphe de la bravoure contre la tyrannie, peut encore nous inspirer. Nos ancêtres n'avaient pas choisi l'esclavage. Ils l'ont vaincu en s'unissant et en comptant sur eux-mêmes. Nous n'avons pas choisi l'isolement et le mépris. C'est aussi en nous unissant et en comptant d'abord sur nous-mêmes que nous parviendrons à nous imposer. Je vous invite tous, chers amis, à commémorer le 219e anniversaire de la bataille de Vertières avec beaucoup de fierté. Je vous remercie de votre attention, votre serviteur Leslie Condé.
Merci Leslie, n'a profité l'occasion. Salut également M. Gasmard, Jean-Paul Gasmard, président de la Chambre de commerce haïtienne à Montréal, qui était présent, et ils étaient plusieurs qui étaient présents lors de cette manifestation. Et m'a salué Dr. Ulysse Chenet, qui a écouté nous depuis Haïti. Alors, et très important, on fait nous entendre une petite musique, parce que... Entendez ça. Et son monde qui était présent, m'a salué le tout. Dans la soirée samedi midi à terre, on écoute ça.
Levez, 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 toute fanatique. Naïwa One, toute sacrée, mais Haïti. Humez, humez nous, humez baleine nous, humez briquet nous. Des délivrances pour Pia. On l'ambia soufflé, c'est le jugement qui rive. Nous pas l'arrêter, yo, condamner tout ça qui a volé. Mais ça qu'à l'étranger, vigne aux gens, paix voyage. Mais attendez l'argent, et tout arrivé, y'a j'en gaspillé.
Qui ça qui dit, yo, pas prané?
Yo, pas prané.
Qui ça qui c'est là pour mourir,
même si la crase.
Qui ça qui dit yon pas pralé,
yon pas pralé dans paysage.
Qui ça qui c'est là pour mourir,
même si la crase. Ah oui, de gen la joie, de changer visage pays nous. Gade n'pa faire l'école, nou pa faire route, nou pa faire l'hôpital. Gadon malédiction, gadon guillon, pour pépahisien. Faut nous arrêter, condamner tout ça qui coupable.
Qui ça qui dit, yon pas pralé?
Yon pas pralé dans paysage.
Qui ça qui c'est là pour mourir?
Même si la crase.
Qui ça qui dit, yon pas pralé?
Yon pas pralé dans paysage.
Qui ça qui c'est là pour mourir?
Même si la crase.
Thank you.
tuer. C'est même nous, même non, c'est même sang qui a coulé dans les nous.
Qui était à la soirée de 34e anniversaire de l'émission Samedi Midi Inter. Et nous voyons les pour la marraine Muriel Baron, et qui était avec nous également. Alors, et n'a pas continué, faut qu'on dise nous que Gagnon et un pile monde, et quand vous voyez ce message, vous nous dites merci. Napédio, merci. Et puis, nous là, jusqu'à 2 heures, Napédio, et plusieurs autres interventions qui ont été faites. Nous gagnons notre ami frère Edwin Parison et nous gagnons également Madame Chantal Ismé que nous prenons le temps de dans une activité que nous avons participé. Ça fait le troisième vendredi, en fait, depuis que nous avons participé à nos activités à Ottawa. Salutations à Madame Nerland en Parison. Et Chanel, et Jean-Philippe également, et Jean-Philippe, c'est mon panneau. Nous connaissons que Claude Marcelin qui a écouté nous. Et m'a salué Priscilla également, qui nous écoute des fois. Je salue en fait sa maman, Madame Betty Ledan, Madame Yannick Fortuna également qui a écouté nous. N'a pas salué Hervé Denis. Hervé Denis, nous espérons que l'a écouté nous, ainsi que docteur Thomas Lalim. Thomas Lalim et cap écouté nous. Alors, il faut que nous que gagnons une activité cap faite très bientôt là. Très bientôt, je crois que c'est vendredi prochain. Je vais regarder ça. C'est une activité qu'a faite le samedi, en fait, 26 novembre. 26 novembre, à compter de 18h au complexe La Providence. Alors, ça, c'est un message de Madame Dominique Mucci. Alors, c'est gala annuel de la MHE. FMCH, sous la présidence d'honneur de M. Danny Laferrière. Alors, c'est ça. Et, pas oublier, à l'encourager. Probablement, j'irai faire un petit tour. Hein, camarade Gary, je vais saluer mon ami Lafleur Bernato qui faisait le voyage. Qui faisait le voyage de Miami de Boston pour venir à Montréal. Hein? Alors, c'est très, très, très apprécié. Et n'a pas gagné tout à l'heure, n'a pas gagné tout à l'heure. Et l'autre ami qui a passé là, dans l'émission, ça, nos bons amis qui ont écouté nous depuis Haïti, hein, que moi salué, ça fait longtemps que nous avons perdu contact là. Et l'y retourner encore, et elle est du côté de la Croix des Missions. Alors, Nap gagné avec nous et notre ami Edwin Parison, côté que nous pourrons parler bien sûr de la République dominicaine, Jean que moi t'ai dit là. C'est quand même important. La situation est gravement grave et du côté de la République dominicaine. Moi, quoi que, faut qu'on bagaille qui fête. Et pendant que nous voyons Abinader à Matrakemoun, et puis les Américains, la France, ils n'ont pas dit rien. Alors, n'a pas salué encore et Junior Bonheur. Nous t'es pensé gagner avec nous, mais cependant, ce n'est que partie remise. Probablement, nous va gagner la semaine prochaine. Alors, nous gagnons Madame Solange Allen que n'a pas salué. Qui dit nous que l'Association des pèlerins de Montréal-Nord organise son voyage annuel à Altagracia, République dominicaine, du 16 au 23 janvier 2023. Alors, pour information, nous sommes capables de briller dans 514-852-1779. Alors, c'est fait. Nous pourrons faire une petite pause publicitaire et n'a pas retourné tout de suite après. Et n'oubliez pas ce soir, la soirée de septentrional dans la salle La Providencia. On écoute ça.
Dans l'industrie de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et de la sonorisation professionnelle, l'équipe de Sonomusique est incontestablement la meilleure. Ayant constamment innové depuis 20 ans dans le domaine de la sonorisation des grands événements et grâce à son système dernier cri, constitué d'enceintes acoustiques à la fine pointe de la technologie, Sonomusique vous offre une sonorisation puissante de grande envergure sur une longue portée. Pour la meilleure qualité de sonorisation possible à petite, moyenne et grande échelle, choisissez Sonomusique, le leader qui pense, innove et bâtit l'avenir de la sonorisation. Sonorisation avec les nouvelles technologies. 3950 Jean Talon Est, coin 22e, proche de Pinot. Téléphone 514 723 6101.
Lorsqu'il s'agit de vendre ou d'acheter une maison, un courtier immobilier affable, compétent et sérieux vous est indispensable. Luckner Caliste, c'est plus de 17 ans d'expérience. Voilà pourquoi ses clients persistent et signent qu'il est le meilleur. Affilié à Remax Excellence, au 7556 Henri Bourassa Est, Luckner accompagne ses clients durant toute leur démarche pour les conseiller, les guider vers de meilleures ressources financières. Écoutez ce sondage téléphonique.
Monsieur Calix, pendant des années, j'ai eu à faire plusieurs transactions avec lui. Sincèrement, c'est un mec sérieux.
Lui qui n'est pas jeune fatigué à ton nom, comme il a dit, il est bon, il est bon.
J'entendais là. L'IEDO en vont commencer fait transaction à l'eau à fait et même l'eau fin fait. Ou pas besoin d'hésiter, Rélil. Au 514-885-4562. Luckner Calix, c'est bon pour vous.
Dans leur rapport à l'élégance, les hommes et les femmes branchés signent et endossent le magasin Marco Mode Unisex, leur nom de confiance depuis 28 ans. Marco Mode Unisex, en partenariat avec Franklin Man Design, vous offre dans la robe que vous porterez, mesdames, la beauté, la magie, le modernisme, le style. Si l'élégance et le chic ont un nom, messieurs, ce nom, c'est le magasin Marco Mode Unisex, partenaire de franklinmandesign.com. Marco Mode Unisex, 9205 Saint-Michel, pour les hommes et les femmes qui veulent habiller leur beauté. Pour plus de renseignements, tapez marcomode.ca ou téléphonez au 514-322-8366.
Je suis Martin. Je sais que je suis un bon père de famille. Je sais que je suis un collègue apprécié au bureau. Je sais que je suis un pas pire joueur de hockey. Je sais que je prends bien soin de ma fille qui vit avec des handicaps, même si c'est pas toujours facile. Mais je ne sais pas que je suis une personne proche aidante.
Ce n'est pas toujours évident de le savoir. Si vous soutenez une personne une fois par mois, une fois par semaine ou chaque jour, vous êtes une personne proche aidante. Les personnes proches aidantes, elles sont plus qu'on pense. Un message du gouvernement du Québec.
Votre assiette, jamais en manque de viande désormais. La boucherie Barry vous en met à gogo. Toute une gamme exposée, bien réfrigérée. Aucune des viandes dans le pluriel de l'art culinaire n'est absente à la boucherie Barry. Avec plus de 40 ans d'expérience et de service dans la région de Montréal, vous allez trouver tout pour votre maison, votre commerce. Marché, restaurant, etc. Allez voir la boucherie Barry. Ragoût, brochettes, volailles, bœufs, grillots, gigots de cabri, viande hachée et des saucisses, tout y est. Alpreti poule d'io, côte cochon, tête cabri, tout. Et puis, pied-bœuf pour pied-bœuf, t'en prends le cas pratique, car Barry, c'est une révolution haïtienne en matière de boucherie à Montréal pour satisfaire à tous les goûts. Barry Boucherie. Barry Boucherie, 2609 rue Fleury Est, Montréal. Téléphone 514-382-2343.
Si vous êtes arrivé au Québec depuis 5 ans au moins et que vous habitez les municipalités suivantes, Repentigny, L'Assomption, Charlemagne, l'Épiphanie et Saint-Sulpice, le SAFIMA, Service d'aide à la famille immigrante de la MRC de l'Assomption, est là pour vous aider dans vos démarches d'installation et d'intégration. N'hésitez pas à nous contacter au 514-499-8077. Nos services sont gratuits et personnalisés. Encore une fois, 514-499-8077.
Haitinet.com est le site web de la diaspora. Plus qu'un site, Haitinet est un centre d'achat en ligne, ouvert 24 sur 24. Retrouvez une sélection des produits et services les plus populaires de vos marchands préférés. Vous y trouverez riz, pois, épices, mamba épicé, produits premium black, billets de spectacle et autres, livrés en 48 heures. Haitinet.com, c'est le centre d'achat de la diaspora.
Aller chercher le sapin, décorer le sapin, faire la liste des cadeaux, inviter la belle famille, aller porter des denrées. Pensez à la tarte au sucre pour le party du bureau, planifier les repas du réveillon, décorer la maison, accrocher les bas de Noël, emballer les cadeaux, demander à Lucas de faire sa chambre, faire l'épicerie, faire des biscuits, ah, aller se faire vacciner!
Les fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps. Un message du gouvernement du Québec.
Alors, c'est ça, on continue. Il est exactement 13h05. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, votre station préférée, 90,3 FM. Nous allons faire une petite pause musicale avec Kaya. Hein? Nous parlons encore. Musique que t'entends remet en pile. Il a tourné tout de suite après.
Dans mes lunettes soleil, le gel à ligne. Dans fond, c'est nos fêtes noires, toutes boulines. Nous perdons la raison. Dans chercher semblé, ça nous paye. Dans payer la guerre, marcher gaillé. Nous perdons direction. Dans cracher sous symbole, quitter par nous liberté. Pour nous d'exister. Dans mon mine, dans le pays, ça ne passe si spawn ploté. Pour ban nous manger, nous presque pas vous donner. Pan di rêve nous tête en bas, la pimpe crème pays là-bas, nous sans destination, nous sans destination. Dans une vie vous bien en bas, dans goûter dans mauvais combat, nous pas indignation, nous pas indignation. Dans ouvre porte pour tout bien à dire pour contrer, fierté nous virer l'envers, dans mettre galipote, gagoter, ça nous possède. Nous perdons pour rêver, nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait d'Haïti, nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait d'Haïti.
Nous Alors, et pendant que le groupe Montana est en réunion à Montréal-Nord avec plusieurs représentants du groupe Montana, je vais faire entendre, en fait, Mme Chantal Ismé, présidente du conseil d'administration de la Maison d'Haïti. Je profite de l'occasion pour saluer Serge Bouchereau et compagnie et tous les amis qui ont écouté nous de partout. Nous pourrons attendre Mme Ismé dans l'intervention que l'été fait. On écoute ça. Alors, on a demandé à tous les amis qui ont écouté nous, parlez-nous. Probablement, nous sommes capables de faire prendre quelques appels. Après, je vous donnerai le signal, s'il vous plaît. On continue. C'est la fête qui continue. Hein?
Mesdames et messieurs les députés, je viens vous apporter un message fort du peuple haïtien, tant à l'intérieur que de la diaspora, de son refus catégorique de toute agression sur son territoire. Nous nous opposons formellement à toute forme d'intervention, peu importe son nom, son contenu et la couleur des bottes qu'il apporterait. Le peuple haïtien vit historiquement les conséquences désastreuses des multiples interventions depuis l'invasion européenne sur cette terre en 1492. À titre illustratif, le génocide des Taïnos induisant la venue des captifs et captives de l'Afrique, la dette de l'indépendance imposée par la France en 1825, le vol de la réserve d'or de la Banque nationale, jamais restituée depuis l'occupation américaine 1915-1934, la dépossession de la paysannerie, ainsi qu'une migration forcée et orchestrée, la déstructuration des institutions étatiques, le remplacement de l'armée nationale par une gendarmerie apatride. Les raisons inavouées de ces envahissements ont toujours été occultées derrière des soi-disant velléités de venir aider Haïti, d'apporter la civilisation ou de rétablir la paix. Aujourd'hui, le Core Group, sous la houlette du Canada, entre autres, souhaite répondre à une demande inconstitutionnelle, illégale, d'un gouvernement illégitime décrié par le peuple haïtien pour venir contrer l'insécurité et résoudre la crise humanitaire. Il va sans dire qu'Haïti fait face actuellement à une des pires crises affectant toutes les sphères de la société. Mais cette crise, elle n'est pas nouvelle. Et c'est la conséquence de politiques imposées sur le peuple haïtien par le biais de laquelle locaux, tant des secteurs politiques que des secteurs privés des affaires. Les politiques d'ajustement structurel déstructurant l'économie haïtienne en sont des exemples. Pour preuve, la récente et criminelle mesure du gouvernement d'Ariel Henry d'augmenter de 128% le prix du carburant à la demande du FMI supporté par le Core Group sur un peuple déjà en détresse. Pendant plus de 20 ans, les forces armées canadiennes et des forces policières comme la GRC ont fait partie des casques bleus des différentes missions de l'ONU en Haïti. De la MINUA 1993 à la BINU 2019, cette dernière force au pays jusqu'en 2022 avait pour mandat, je cite, « appui à bonne gouvernance, stabilité, professionnalisation de la police, réduction de la violence communautaire et de la violence des gangs ». Toutes ces missions ont été non concluantes, qu'en ne donnant aucun résultat en termes de leurs propres objectifs et de surcroît n'ont apporté que souffrance pour la population, tout en accroissant sa vulnérabilité. Viol, enfants sans père, prostitution. Et ceux qui l'ont perpétré n'ont jamais été interpellés, voire jugés. Nous nous questionnons sur le désir soudain de vouloir juguler cette crise résultant de la politique appliquée en Haïti par les pays du Core Group, dont le Canada, qui ne tiennent pas compte des revendications des masses haïtiennes et qui en observent en silence. Un silence mortifère devant les exactions de toutes sortes qu'elles subissent. Rien n'avait été dit sur les massacres, les centaines de kidnappings, ruinant la classe moyenne, paupérisant davantage les classes populaires, semant le deuil et le désespoir dans les familles. Rien n'a été dit sur les répressions systématiques et sauvages de la police nationale, formée aux bons soins des forces canadiennes, entre autres sur les manifestants. Rien n'a été dit sur les initiatives de fédérer et de donner un statut légal à ces mêmes gangs qu'aujourd'hui on veut combattre. Rien n'a été dit non plus sur l'arrivée massive d'armes et de munitions en provenance des États-Unis, et on pourrait continuer. Fort de ces constats, la CNDDH, en adéquation avec les désidératas du peuple haïtien, demande au gouvernement canadien de sursoir sous toute forme d'intervention en Haïti qui risque de provoquer un génocide dans les quartiers populaires sous contrôle de gang fort ou de marmée, d'arrêter d'appuyer le gouvernement illégitime d'Ariel Henry, d'arrêter le soutien indirect aux gangs par le biais de gouvernements fantoches dont celui d'Henry, de soutenir une solution haïtienne à la crise, ignorer systématiquement notamment l'accord de Montana groupant les forces vives de la nation, résultat d'un consensus large et prônant une transition de rupture, d'apporter une coopération respectueuse de la dignité, de la Constitution et de la souveraineté d'Haïti, basée sur les besoins réels exprimés par les actrices et acteurs locaux, une assistance technique à la police nationale et la formation sur le respect des droits de la personne, un soutien au système judiciaire pour rendre justice à la population par rapport aux différents massacres et à la dilapidation des fonds Pétro-Caribé, un soutien aux demandes de réparation des familles de plus de 10 000 morts de choléra et de 800 000 personnes affectées. Mesdames et messieurs les députés, le peuple haïtien debout, en lutte, en dépit de certaines années de déni de justice, d'inégalité sociale criante, vous exhorte
à
l'écouter et à respecter sa volonté.
Merci, Madame Esmi, pour votre témoignage.
Et maintenant, il y a des cloches qui sonnent. Donc, je vais demander votre indulgence pour continuer 15 minutes exactement. Alors, nous aurons une ronde rapide si nous avons le consentement unanime de tout le monde ici. Et donc, nous allons poursuivre pour 15 minutes exactement, ce qui donnera à tout le monde juste à peu près 4 minutes. Alors, le Parti conservateur, Monsieur Wilson. Merci. Je ne suis pas particulièrement claire. Alors, ce que vous demandez exactement, vous ne voulez pas d'intervention, mais vous voulez de la stabilité dans la région. Comment peut-on s'y prendre? Est-ce que le Canada a les compétences uniques dans ce sens?
Pour la question, si je comprends bien, vous voulez me demander, parce que j'ai hésité avant de prendre la traduction en français. Donc, si je comprends bien, vous désirez savoir qu'est-ce que je propose concrètement. Est-ce que le Canada, tout seul, peut porter la solution que je propose? Donc, d'abord, ce que je propose, c'est justement de respecter les compétences, parce qu'on parle souvent d'Haïti comme un pays en faillite, mais il y a des compétences en Haïti aussi, même en matière de sécurité. Ce qui manque, ce sont les ressources, et tant au niveau des armes, des matériels, des ressources matérielles que logistiques. Donc, on dit, dans le cadre d'une coopération, on demande justement que le Canada, entre autres, donc comme je m'adresse au niveau devant les députés du Canada, donc j'insiste sur le rôle que le Canada peut apporter, mais certes pas seulement le Canada, mais je m'adresse au Canada. Donc, ce serait un accompagnement pour l'entraînement, par exemple, d'une force spéciale de la police nationale, qui irait de concert avec des ressources matérielles et logistiques adéquates. Également, une formation sur les questions des droits humains, parce qu'on a tendance à oublier que cette police-là aussi est en train d'enfreindre les droits des personnes en Haïti. Donc, on a besoin d'une formation en ce sens. Donc, mais à court terme, on dit que je suis venue faire un diagnostic. Le diagnostic a été fait en Haïti par les organisations des droits de la personne et par plein d'autres organisations. Donc, ce que je suis en train de demander, justement, c'est d'apporter une coopération respectueuse de notre dignité et de nos besoins réels. Et ces besoins réels, les acteurs locaux et les actrices locales sont capables de les exprimer. Donc, il faut s'asseoir d'abord avec les Haïtiens pour savoir comment intervenir et sous quelle forme.
A minute and a half left.
Il vous reste une minute et demie.
Philippe, is there?
Y a-t-il des intérêts étrangers qui véhiculent ce qui se passe, qui servent de moteur pour ce qui se passe présentement en Haïti?
Oui, certainement. Et c'est ça notre plaidoyer ici, c'est que, par exemple, je prends un titre d'exemple, il a été possible d'aller à Vareux, où se trouvent justement les réserves de carburant, et la police nationale, je pense qu'hier, a pu y arriver et libérer cet espace. Pourquoi c'est maintenant et pas avant? Parce que justement, il y a plein toutes les manufactures sont en train de se fermer, donc les intérêts internationaux sont en jeu concrètement maintenant et on trouve les ressources qu'il faut pour le faire. Alors, ce que la population haïtienne est en train de vivre les fruits de ces problèmes-là depuis des années. Donc, le problème, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, il faut maintenant tenir compte la volonté haïtienne de respecter les besoins et les desiderata du peuple haïtien et d'arrêter de mettre de l'avant les intérêts internationaux et les intérêts de leurs laquais aussi. Parce que je dis internationaux, mais il y a quand même aussi les oligarques et les bourgeois haïtiens qui véhiculent ces intérêts.
OK.
Mais, j'ai compris ce que vous avez dit. Par contre, y a-t-il des forces étrangères qui viennent au pays et qui alimentent ces problèmes? Une phrase ou deux comme réponse, s'il vous plaît. Alors, peut-être oui ou non.
Par le passé, les gouvernements, dont notamment le PHTK, avaient fait appel à des forces étrangères pour venir mater les soulèvements des manifestants, les velléités du peuple haïtien de se rébeller contre ce qui est là. Donc, mais ça, je ne suis pas spécialiste sur ces questions-là, donc je ne saurais pas répondre totalement.
Thank you, Miss Mee, on va continuer avec...
Dans les solutions que vous nous proposez, j'aimerais savoir, demain matin, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là au niveau, en ce qui concerne les droits humains des Haïtiens?
Bon, merci, Monsieur Dubourg, pour la question, Monsieur le député. Premièrement, je pense que, comme on l'a dit tantôt, la première solution consiste d'arrêter de supporter le gouvernement actuel qui n'a aucune volonté politique de résoudre ces problèmes-là. Parce que le fond de la question, c'est une volonté politique de résoudre ça aussi, parce qu'il est le chef principal de la CSPN. Donc, si la police nationale n'a pas l'ordre de ce chef principal, il ne peut pas agir. Donc, d'abord, avant tout, débarrassez-nous de ce gouvernement fantoche qui a été installé non pas par le peuple haïtien, mais par des entités étrangères. Deuxièmement, je réitère qu'il y a des spécialistes la question en Haïti, mais qui n'ont pas les moyens matériels et logistiques et qu'il nous faut un accompagnement en termes d'entraînement et de formation à la police nationale, d'encadrement pour former des unités de techniques, tactiques, etc., spécialisées qui pourront justement répondre rapidement à ça. Mais est-ce que ce sont des Haïtiens qui vont justement faire face à cette situation?
Merci, madame. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc que je vais aller un peu plus vite.
Oui, allez-y.
Je vous attends et vous parlez, je sais aussi de la situation, des leaders politiques en Haïti. Vous avez parlé aussi de l'accord de Montana. Or, j'ai entendu effectivement que les gens sont en train de s'entre-déchirer au sein même de l'accord Montana. Et je sais aussi que vous êtes très impliqué dans l'accueil des migrants qui arrivent ici aussi. Mais que pouvons-nous faire dans l'immédiat pour donner un espoir au peuple haïtien, aux jeunes qui veulent développer leur pays aussi?
Brièvement, on n'a pas le temps. Monsieur le député, justement, cette question haïtienne n'est pas seulement une question militaire. Et c'est pour ça que nous, on est, en plus de tout ce que j'ai déjà développé, qu'on est contre une intervention militaire. On ne vient pas résoudre une crise humanitaire avec une occupation. Donc, il y a aussi une crise humanitaire adressée. Et la plupart de ces jeunes qui se retrouvent dans les gangs sont des jeunes sans espoir qui sont instrumentalisés par les oligarques, par les gens au pouvoir. On le sait. Donc, il y a un autre aspect de la crise à adresser. Et cet aspect-là demande également une coopération où on va justement ne pas apporter des sacs de blé, de l'huile, etc. Par exemple, on n'a pas le temps, je ne peux pas développer. On peut aller acheter justement dans la paysannerie les denrées qui sont en train de pourrir à cause de cette crise pour justement c'est un exemple. Donc il faut faire preuve de créativité, mais de créativité qui soit respectueuse de nos désirs, mais en même temps qui soit appuyée sur les trucs locaux.
Merci. Une répétition, peut-être pas oui ou non.
Peut-être.
Êtes-vous d'accord avec les sanctions qu'on devrait imposer aux gens corrompus en Haïti?
Oui ou non?
Oui, dans la mesure que ça se fait en accord avec le gouvernement, le nouveau gouvernement haïtien.
Merci beaucoup.
Et on va continuer avec M. Brunel Duceppe.
Merci, M. le Président. Merci à nos témoins. C'est franchement intéressant, mais on se rend compte à quel point c'est complexe comme situation. Il y a des visions opposées. Au sein même, je pense, de la communauté haïtienne, de la diaspora, Ici, M. Dieudonné, tantôt, vous nous parliez, vous étiez plutôt en faveur d'une intervention ou pas. J'aimerais que vous fassiez du chemin là-dessus un peu. Là.
Bon, en définitive, je ne suis pas directement en faveur d'une intervention. J'ai dit que si on devrait avoir une intervention, cette intervention doit se faire en commun accord avec un comité qui serait formé, une commission, une structure de transition, qui serait composé des filles et des fils et des filles compétents d'Haïti et de la diaspora, et des vrais techniciens, ainsi que on pourrait développer, par exemple, des vrais deals entre ceux qui veulent intervenir et les gens du terroir qui se mettent ensemble pour éliminer d'abord la question des armes à feu, la question de... Parce qu'il y a un problème. Le problème social, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui cause ce problème social? Qu'est-ce qui fait ça s'aggrave davantage? C'est parce qu'il y a trop de gangs armés qui ont des munitions. Les munitions viennent d'où? De l'international. Donc, il faut les bloquer à la source, en amont. Et puis, en même temps, il faut aussi avoir conjointement avec les spécialistes d'Haïti et les spécialistes de l'international, comme le Canada, par exemple, ensemble, on intervient pour éliminer ce problème. On peut l'éliminer, on peut les cibler. Une fois que 2, 3, 4, 5 commencent à tomber, je suis sûr et certain que les autres gangs vont comprendre que ce n'est pas le chemin à prendre. Et puis en même temps, il faut aussi amener le développement en même temps. Donc, c'est un travail. Il faut prendre, par exemple, l'exemple des interventions qui quand même donnent des résultats. Il faut tirer pour profit des missions onusiennes qui ont réussi. On peut citer, entre autres, Libéria, Tino-Oriental, Côte d'Ivoire récemment. Donc, on a vu comment ils ont traité le dossier. Ces missions ont réussi parce qu'il y a un État qui a orienté des missions, mais... La partie technique a été gérée par des structures indépendantes.
Mais, et, juste rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais donner la parole à Madame Ismay, parce que j'ai beaucoup aimé vos interventions, Madame Ismay. Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous sentez que le gouvernement canadien a soutenu le gouvernement haïtien qu'aujourd'hui tout le monde dénonce?
Dans une minute.
Oui, justement. C'est l'une des reproches que toute la population haïtienne, et j'apporte le voile à la majorité, je dois dire, bon, il y en a qui sont d'accord, reproche le gouvernement canadien, c'est le support inconditionnel avec les autres membres du core group, apporte à ce gouvernement qui est indifférent à la souffrance de son propre peuple et qui contribue justement par son inaction, à ce qu'on arrive à cet état de pourrissement de la crise.
Donc, une des premières choses à faire, c'est que le gouvernement canadien arrête totalement le soutien au gouvernement actuel en Haïti, selon vous?
Exactement. C'est non seulement selon moi, mais selon la plupart de la population haïtienne qui est dans les rues en train de demander de faire cette revendication.
Merci beaucoup. Merci aux témoins. Désolé, mais j'avais juste 4 minutes.
Merci. Je voudrais dire, bon, je ne considère pas qu'il y a un gouvernement en Haïti actuellement. Oui.
Finalement, on veut avoir M. Bouloris pour 4 minutes.
Merci, M. le Président. Merci aux témoins d'être avec nous aujourd'hui. Madame Ismay est très, très contente d'avoir quelqu'un de la Maison d'Haïti témoigner à cette importante étude ici au comité des droits de la personne. J'aimerais ça continuer un peu sur vos interventions sur le fait que le gouvernement canadien devrait arrêter de soutenir ce gouvernement-là que vous jugez illégitime. On a beaucoup entendu parler tantôt, un peu plus tôt, de propositions pour former un dialogue national avec des forces d'opposition, avec les forces vives de la société civile. Comment vous voyez le travail d'accompagnement que le gouvernement canadien pourrait faire afin d'assurer cette transition vers peut-être des nouvelles élections puis un gouvernement davantage représentatif de la volonté nationale des Haïtiens et des Haïtiennes?
D'abord, je dois dire que l'état de pourrissement de la crise en Haïti, face à cela, on ne peut pas parler maintenant d'élections. Et ça, c'est presque un consensus à l'intérieur du pays. Donc, ce que nous pensons, c'est que, justement, cette partie-là doit rester entre les mains des Haïtiens et des Haïtiennes. Les questions de constitution, de calendrier électoral, de conseil électoral permanent, de consensus public, tout ça relève des affaires internes d'Haïti et ne concerne que les Haïtiens. Donc, le rôle du Canada serait justement de soutenir les propositions haïtiennes et comme proposition structurée, j'ai dit notamment, il y a l'accord de Montana qui quand même relève d'un consensus assez large de plusieurs secteurs vifs de la société, dont les paysans, les ouvriers, les organisations politiques de gauche comme de droite, etc., la société civile. Je pars de là parce que c'est quand même des femmes et des hommes qui ont pris leur courage depuis 2 ans et qui se sont rencontrés et qui ont formulé une proposition. Une proposition dite de rupture, mais rupture avec l'impunité, la gabegie administrative, la corruption. Et je pense que ce qu'on doit maintenant focaliser, c'est de permettre aux Haïtiens de leur donner le temps de pratiquer cette rupture, de cette transition de rupture, afin de préparer la société vers la transition démocratique dont on parle, afin de pouvoir réaliser des élections qui soient dignes de ce nom et qui soient vraiment démocratiques et qui répondent aux besoins du peuple haïtien. On ne fait pas des élections pour faire des élections, on fait des élections justement pour avoir une société qui réponde à la majorité, à ce que voudrait la majorité du peuple. Et donc, cette transition de rupture est très importante parce que ça permettrait non seulement de donner le temps de régler certains problèmes, mais d'asseoir ce consensus à l'intérieur de la population, de réconcilier le peuple haïtien avec lui-même. Parce qu'il s'agit de ça aussi, je viens de le dire. C'est un peuple avec des centaines d'années d'injustice criante et d'inégalité sociale.
Oui. Je pense que c'est bien d'avoir cette perspective-là pour avoir des assises solides, profondes, populaires pour une transition. Une minute. Mais à plus court terme, puis je comprends que c'est la bonne orientation, Mme Ismé, à